en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le thème de la justice, et plus spécifiquement la réflexion sur la réforme de l'institution judiciaire, est apparu si important au regard de l'actualité que l'Académie des sciences morales et politiques, qui lui avait consacré l'année 2008, l'a repris le temps d'une séance, celle du lundi 25 mai 2009. Mireille Delmas-Marty a présenté devant ses confrères de l'Académie une communication intitulée « La phase préparatoire du procès pénal, pourquoi et comment réformer ?». Entre le moment de l'infraction constatée et son jugement s'écoule en effet une phase essentielle, le procès, pendant lequel l'affaire est mise en état d'être jugée. Mireille Delmas-Marty s'est longuement interrogée dans cette communication académique sur le rôle du juge d'instruction et sur la répartition des pouvoirs entre le siège et le parquet. Écoutez cette communication qui a eu lieu dans la grande salle des séances des académies.
Monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je dois vous parler de la réforme de l'instruction, c'est-à-dire de cette phase du procès pénal qui est située entre la découverte de l'infraction et le renvoi en jugement. Née avec le Code d'instruction criminelle de 1808, le juge d'instruction en est le maître. Il met l'affaire en état d'être jugée, c'est-à-dire qu'il réunit les éléments à charge et à décharge et les informations sur la personnalité du suspect. Son dossier est transmis à la juridiction de jugement et bien souvent, il détermine l'issue du procès. Aussi, le juge d'instruction fut-il pendant longtemps considéré comme la figure emblématique du procès pénal. Une figure à deux visages. Car il est chargé de l'enquête comme un policier. D'ailleurs, en 1808, dans le Code, il était qualifié d'officier de police judiciaire et il était placé sous la tutelle du parquet. Néanmoins, le juge d'instruction est un juge. Et notamment, il pouvait utiliser tous les moyens de contrainte, y compris la détention, qu'à l'époque on appelait préventive. C'était la liberté qui était provisoire. En fait, on dit au XIXe siècle, à l'époque de sa jeunesse, le juge d'instruction passait pour l'homme le plus puissant de France, et en tout cas 40% des affaires pénales étaient instruites par lui. Deux siècles plus tard, en 2009, il ne traite plus qu'environ 4% des affaires. Est-ce à dire que 96% des affaires pénales seraient devenues si simples qu'elles seraient d'emblée en état d'être jugées sans investigation préalable ? Peu vraisemblable, l'hypothèse peu vraisemblable à l'heure de la mondialisation, de la délinquance financière, des grands trafics internationaux. Alors se pose la question, comment a-t-on pu en arriver là ? C'est une longue histoire qui remonte, semble-t-il, à l'entrée de l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction en 1897. Car alors l'instruction devient plus contradictoire. Et à la même époque, progressivement, l'enquête simple menée par la police sous la direction du parquet, mais sans participation d'un avocat, prend une importance croissante. Elle est d'abord officieuse, et puis elle va être légalisée en 1958 par le Code de procédure pénale, ça devient l'enquête préliminaire. C'est une formule qui permet au parquet, qui à la même date perd le pouvoir de choisir son juge d'instruction dans telle ou telle affaire, mais cela permet au parquet de renvoyer directement une affaire en jugement sans passer par un juge. Alors on va découvrir peu à peu que plus l'instruction se judiciarise, ce qui est nécessaire pour répondre aux principes constitutionnels et européens, plus les voies parallèles se développent au détriment de l'instruction. Et c'est ainsi qu'on va passer en 1960 à 20% des affaires pénales, en 1989-90 à 8% et aujourd'hui à ces 4% que j'évoquais. Dans la commission Justice pénale et droits de l'homme que j'avais eu l'honneur de présider en 1989-90, nous avions noté déjà ce paradoxe en disant que pour cette raison, une réforme d'ensemble était devenue nécessaire. Plus exactement, nous invoquions deux raisons. principales. D'une part, l'incompatibilité des fonctions de ce juge à deux visages, qui doit comme enquêteur faire des hypothèses sur la culpabilité des uns, l'innocence des autres, mais qui est supposé redevenir impartial pour prendre des décisions juridictionnelles, à commencer par la détention provisoire et décider le renvoi au jugement. Autre raison, la confusion des pouvoirs entre le parquet et le juge. Et à l'époque, il y a 20 ans donc, nous mettions en garde le législateur contre les effets pervers de l'accumulation de réformes partielles qui ajoutent toujours de nouvelles formalités, de nouvelles règles de droit, des règles techniques, mais qui ne s'accompagnent ni des moyens adéquats, ni d'une réflexion d'ensemble sur la cohérence du système. Et nous disions, finalement, ce n'est pas le manque d'intérêt du législateur qui pose problème, c'est ce rapiéçage, ce bégaiement législatif qui nous paraît irréaliste et néfaste. Cette mise en garde fut vaine, car l'accumulation continua de plus belle, à raison, dès 1993, de deux lois la même année, puis de nouveaux textes, je dirais presque chaque année. La seule réforme d'ensemble fut la loi du 15 juin 2000, qui a élargi le projet du gouvernement par un travail parlementaire considérable, sans toutefois aller jusqu'au bout de la réforme structurelle nécessaire. Mais cette loi a été aussitôt affaiblie par la même majorité qui vota deux lois, 15 novembre 2001 et 4 mars 2002, qui déjà modifiaient l'équilibre. Et puis la nouvelle majorité vota les lois de 2004, 2006, 2007. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'annonce d'une réforme d'ensemble par le président de la République, puis par le comité présidé par M. Philippe Léger, est en soi une très bonne nouvelle. À condition toutefois de ne se tromper ni sur le diagnostic, ni sur le traitement. Pourquoi réformer ? Les raisons d'une réforme d'ensemble sont plus actuelles que jamais. Mais il faut tenir compte de ce qui a changé dans les textes et dans les pratiques depuis 20 ans, tant en droit français qu'en droit international. En droit français, il y a un effort de clarification qui est venu en 2000 de l'inscription en tête du Code d'un article préliminaire qui pose les principes directeurs du procès et qui commence d'ailleurs par la procédure équitable et contradictoire. Le mot est important parce qu'il permet de dépasser le vieux clivage, je dirais presque la querelle quasi théologique, qui opposait la procédure inquisitoire menée par un enquêteur public à la forme accusatoire menée par les parties au profit d'une conception mixte. Mais cela vaut seulement pour les quelques affaires portées devant le juge d'instruction. Et les principaux problèmes repérés en 1990 sont très inégalement résolus, d'où un triple constat. Premièrement, l'incompatibilité des fonctions du juge d'instruction est en partie corrigée. Corrigée par la création du juge des libertés et de la détention, c'est lui désormais qui place en détention, et le renforcement des droits de la défense. Je dis en partie seulement, car l'affaire Doutreau a montré face aux faiblesses de l'instruction par le juge d'instruction, que ce juge des libertés de la détention, supposé contrôlé, avait des difficultés à exercer un véritable contrôle, alors que, à la même époque, la durée moyenne de l'instruction a augmenté, elle a même doublé entre 1990 et 2008. En 2007, à la suite d'Outreau, une loi a essayé de résoudre le problème, en créant une collégialité de juge d'instruction pour les décisions importantes comme la mise en examen. Mais pour des raisons budgétaires, elle a été reportée comme l'avait été en 1985 une première loi votée sur cette collégialité. C'était reporté maintenant à 2010 puis à 2011. En attendant, il y a un décret qui permet la mise en place de pôles de l'instruction et l'élargissement de ce qu'on appelle la co-saisine. La co-saisine, c'est lorsque un dossier difficile peut être conduit par deux juges. C'est différent de la collégialité qui concerne la décision et pas le dossier. Mais la marginalisation du juge d'instruction, que regrettait déjà notre confrère Jacques Boré dans l'ouvrage publié en 1996 par notre Académie sous la direction de Jean Foyer, cette marginalisation, elle se poursuit plus que jamais, y compris dans les affaires complexes. Or, pendant la même période, les pouvoirs du parquet se sont considérablement développés. C'est mon deuxième constat, car ce développement aggrave la confusion des pouvoirs. En effet, le parquet joue tantôt le rôle de juge d'instruction, parce qu'il dirige lui-même des enquêtes, tantôt par le jeu subtil de ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites, ou encore les procédures simplifiées. Eh bien, le parquet joue alors le rôle d'une quasi-juridiction de jugement qui détermine la mesure punitive. Ces pouvoirs d'enquête sont facilités par la possibilité, sans passer par le juge d'instruction, maintenant il peut demander directement au juge des libertés d'autoriser une perquisition, un accès au système informatique, une interception de sécurité, autrement dit, des mesures coercitives. Et puis, la création de bureaux d'enquête dans les différents parquets, sur le modèle mis en place au tribunal de Paris, favorise en pratique la prise en main de l'instruction par le parquet. Mais une instruction sans avocat, ce qui nous ramène d'une certaine manière à la situation antérieure à la loi de 1897. Or, en même temps qu'il devient enquêteur, le parquet reste l'organe qui décide des poursuites, l'organe, autrement dit, qui peut classer une affaire sans suite, non seulement parce que l'infraction n'est pas constituée, mais aussi pour raison d'opportunité, pas seulement en légalité, mais aussi en opportunité. La contrepartie traditionnelle de ce pouvoir de classer en opportunité, c'était la constitution de partie civile de la victime auprès du juge d'instruction. Mais depuis 2007, la victime doit s'adresser d'abord au parquet. Et c'est seulement si le parquet n'ouvre pas les poursuites qu'au bout d'un certain temps, le juge est saisi. D'ailleurs, en matière de crimes internationaux, le projet de loi adaptant le droit français au statut de la Cour pénale internationale, dans la version qui a été votée en 2008 par le Sénat, réserve le monopole des poursuites au parquet. Ajoutons encore le développement des alternatives aux poursuites qui permet au parquet de se substituer à la juridiction de jugement. D'abord avec la médiation pénale, qui est une sorte de classement sous condition, puis avec ce qu'on appelle la composition pénale, qui permet au procureur de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention une amende ou une autre mesure alternative à l'emprisonnement. Il y a une longue liste de ces mesures dans le code. Cette formule suppose l'acceptation de l'intéressé, le cas échéant de la victime, et elle doit être validée par le président du tribunal ou son délégué. C'est important, cette validation par un juge, car c'est une réponse à la décision du Conseil constitutionnel de 1995 qui avait censuré une mesure analogue qui s'appelait l'injonction pénale parce qu'elle était prononcée sans juge. Mais il n'en reste pas moins que le parquet joue là encore un rôle nouveau et en pratique souvent déterminant. La validation est peu formaliste et il y a un faible pourcentage de non-validation. Enfin, la grande innovation de la loi de 2004, ce sera la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans le jargon du palais, on l'appelle la CRPC. Encore plus mystérieux que le titre qui n'est déjà pas particulièrement clair. Alors, c'est une procédure qui est très proche de la procédure anglo-américaine du plaider coupable et de son prolongement sous la forme de négociation, le plea bargaining, qui veut dire littéralement le marchandage sur le plaidoyer. Le système est limité au délit, punissable d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Elle repose sur un accord entre le délinquant et le procureur sur les faits et sur la peine, y compris l'emprisonnement, qui peut aller jusqu'à un maximum d'un an. Alors là encore, le juge intervient après, l'accord doit être homologué par un juge, Mais c'est le procureur qui recueille les déclarations par lesquelles l'intéressé reconnaît les faits, et c'est le procureur qui détermine la nature et la mesure de la peine. Le juge peut simplement accepter ou refuser, ne peut pas changer la qualification ou la peine. Ce qui fait qu'une récente étude du Conseil de l'Europe montre que maintenant la France arrive en tête, après le Royaume-Uni, mais avant les anciens pays de l'Est, quant au déplacement du pouvoir de juger vers le parquet. Cette étude, publiée en 2008, compare pour l'année 2006 le nombre d'affaires pénales qui se sont terminées par une sanction, une mesure imposée ou négociée par le procureur, d'un côté, et de l'autre, le nombre d'affaires portées devant les tribunaux. Les statistiques étant établies pour 100 000 habitants, la France arrive en deuxième position après le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a presque le même nombre de chaque côté, 1646 cas pour le procureur, 1878 pour le tribunal. En France, c'est un petit peu plus bas, 821 pour le procureur, 1120 pour les tribunaux. Mais nous avons doublé, par exemple, l'Allemagne, qui est restée plus réservée en ce qui concerne les pouvoirs du procureur. En pratique, actuellement, il est proposé d'appliquer cette procédure simplifiée à tous les délits, quelle que soit la peine encourue. C'est ce qui est proposé dans le rapport de M. Guinchard sur la répartition des contentieux. Et il serait envisagé aussi d'adapter cette procédure aux crimes. Ce seraient les propositions, je mets le conditionnel puisqu'il n'y a pas encore de remise officielle, ce seraient les propositions du comité présidé par M. Léger. Nous risquons de finir par dépasser ainsi les pays de common law sur leur propre terrain. Ce qui m'amène au troisième constat. Malgré cette extension de ces pouvoirs, les garanties n'ont guère progressé par rapport aux propositions que nous avions faites en 1990, puis qui avaient été faites par la commission présidée par Pierre Truche en 1997, pour renforcer l'impartialité et l'indépendance du parquet. Ajoutons que les pratiques auraient plutôt régressé, qu'il s'agisse de la politique pénale ou des garanties proprement statutaires. Alors la politique pénale, c'est un point important, car elle implique la détermination des choix prioritaires pour la nation, les choix de poursuite, les choix de sanctions. Et à ce titre, elle dépend du gouvernement. Elle fait partie des politiques de la nation, article 20 de la Constitution. Le problème, c'est qu'en pratique, cette politique pénale comporte à la fois des directives générales et des instructions dans des affaires particulières. Il y en a peu vraisemblablement, mais elles sont admises, même écrites et versées au dossier, ce qui a été imposé par les deux lois de 1993. Ces instructions particulières peuvent faire douter de l'impartialité du parquet. D'ailleurs, pendant quelque temps, plusieurs ministres avaient renoncé à les utiliser et l'interdiction en a même été annoncée. Mais la pratique a repris. La pratique a repris et elle a été confortée, confirmée par une loi de 2004 qui inscrit dans le code le principe que le ministre peut enjoindre au parquet d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction de jugement de telles réquisitions écrites qu'il juge opportune. Maintenant, quant à l'indépendance, elle relève de conditions statutaires de carrière, en fait, conditions de nomination, conditions de discipline. Ces conditions n'ont pas non plus beaucoup progressé. Il y avait eu un projet de loi constitutionnelle adopté par le Parlement en 1999, qui prévoyait une procédure de nomination des magistrats du parquet sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce projet, finalement, n'a pas été soumis au Congrès. Et parallèlement, la question du pouvoir disciplinaire, le pouvoir continue à être exercé par le ministre de la Justice. Alors, la loi constitutionnelle de 2008, la loi toute récente, a certes prévu que la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour le parquet serait désormais consultée sur toutes les propositions de nomination, y compris celles des procureurs généraux. Mais cette loi constitutionnel se contente d'un avis simple, donc qui peut être suivi ou ne pas être suivi. Et dans la pratique, il semble que dans la majorité des cas, l'avis négatif, lorsqu'il est rendu par le Conseil, n'est pas respecté. Ainsi, en 2006, sur 10 avis défavorables, 9 n'ont pas été suivis, ce qui a entraîné d'ailleurs une véritable semonce du Conseil supérieur de la magistrature, dont les membres soulignent le caractère exceptionnel de cette situation sans précédent dans l'histoire récente du Conseil. Ils considèrent que le recours systématique à une politique consistant à outrepasser les avis défavorables émis altère le fonctionnement du Conseil en créant un déséquilibre notable entre les deux formations, siège et parquet. Alors, je dirais que le contraste n'en est que plus frappant avec le droit international. Le droit international, lui, a évolué en sens inverse. Et malgré la diversité des statuts du parquet d'un pays à l'autre, il tend au renforcement des garanties d'indépendance du parquet. Ainsi, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il est nécessaire pour qu'un magistrat puisse être considéré comme exerçant des fonctions judiciaires au sens de la Convention, qu'il soit indépendant de l'exécutif et des partis. Et on en a beaucoup parlé dans la presse, cette Cour européenne vient d'appliquer ses principes à la France le 10 juillet 2008 dans une affaire Medvedev qui est maintenant renvoyée à la demande de la France devant la Grande Chambre. Donc il faut attendre la décision de la Grande Chambre pour savoir quelle est la position définitive de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question si importante du statut du parquet. Mais dans la décision de juillet 2008, la Cour dit très clairement ceci: force est de constater que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié. J'ajoute, du point de vue de l'Europe, mais en regardant de l'autre côté, du côté de l'Europe, de l'Union communautaire, communauté européenne, de l'Union européenne et des communautés européennes, la création d'un procureur européen a été inscrite dans le projet de traité constitutionnel, puis dans le traité de Lisbonne. Et elle a été inscrite à partir de propositions que j'avais coordonnées dans les années 2000, qui s'appelait le Corpus Juris. À l'époque, nous posions le principe d'un procureur indépendant tant à l'égard des autorités nationales que des organes communautaires. C'était donc la tendance dominante. Maintenant, dernier élément de droit international à l'échelle mondiale. Le statut des tribunaux pénaux internationaux, d'abord les tribunaux ad hoc, comme on dit, constitués pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, puis le statut de la Cour pénale internationale, juridiction permanente, prévoit l'indépendance des procureurs. Plus précisément, les statuts prévoient que les procureurs ne sollicitent, les procureurs et leurs adjoints, ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucune source extérieure. Pour toutes ces raisons, il me semble donc qu'une réforme d'ensemble est plus que jamais nécessaire. Mais quelle réforme ? Comment réformer ? Ce serait sans doute une erreur de faire de la suppression du juge d'instruction la mesure phare, alors que le parquet est désormais le véritable enjeu de toute réforme pénale, et que le plus urgent est, me semble-t-il, de rééquilibrer les pouvoirs. Rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et l'autorité judiciaire, c'est la question du statut du parquet. Entre le parquet et le siège, c'est ce que j'appellerais la stature du juge. Pouvoir qu'on lui donne, les moyens aussi qu'on lui donne. Enfin, rééquilibrer les pouvoirs entre la justice et les justiciables, c'est-à-dire plus précisément entre la justice et les droits de la défense d'un côté et les droits des victimes d'un autre côté. Ce qui fait que, quelles que soient les variantes possibles, la réforme devrait, me semble-t-il, respecter 4 conditions prioritaires qui concerne le parquet, le juge, la défense et la victime. Le statut du parquet, première condition. Compte tenu de l'accroissement de ses pouvoirs, il est urgent de renforcer les garanties d'indépendance et d'impartialité, je dirais que l'indépendance étant d'ailleurs une condition de l'impartialité. Cela semble urgent en toute hypothèse, mais a fortiori, si le comité léger devait conclure à la suppression du juge d'instruction et s'il devait conclure à l'extension de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, de nouvelles garanties, lesquelles ? Première garantie concerne plus directement l'impartialité, ce serait de redéfinir la notion de politique pénale, précisément en séparant les directives générales et particulières. Pour ce qui est des directives générales, il ne s'agit pas bien sûr de renoncer au principe selon lequel la politique pénale relève du gouvernement. Mais il s'agit tout au contraire de rendre cette politique pénale plus visible, peut-être de renouer avec la tradition des grandes circulaires qui ne sont pas simplement la paraphrase des lois nouvelles, mais qui se fondent sur des évaluations quantitatives et qualitatives qui indiquent des objectifs à moyen et à long terme et qui évitent ainsi de répondre à chaque fait divers par une loi nouvelle. Rendre la politique pénale de la nation plus visible, ce serait aussi, me semble-t-il, organiser, sur le modèle qui avait été proposé en 1999, un débat annuel au Parlement, précisément pour annoncer les objectifs, pour évaluer les résultats, pour faire comprendre une politique pénale qui est quelquefois difficile à suivre. Par exemple, cette accumulation en matière de récidive de lois depuis la loi de 2005 mériterait quelques explications. En revanche, les injonctions dans les affaires particulières devraient être explicitement exclues. Cela n'empêcherait pas, et ne devrait pas empêcher, le gouvernement de faire connaître son point de vue dans les quelques rares affaires dites sensibles où il le jugerait nécessaire. Mais alors, au lieu de placer le parquet dans la situation délicate, ma collègue Michèle Lorassa, dans un article, parlait d'une situation tordue, au lieu de placer le parquet dans cette situation qui fait qu'il prend des réquisitions écrites sur ordre tout en retrouvant en principe la liberté de parole à l'audience, eh bien il y a une autre solution, bien rodée devant le Conseil d'État, qui serait de faire appel à un avocat qui défendrait ouvertement devant le juge le point de vue du gouvernement. Maintenant, quant aux garanties statutaires du parquet, son indépendance, elle devrait être renforcée par le transfert au Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir de décider de la carrière des procureurs et, le cas échéant, d'exercer un contrôle disciplinaire. Il est vrai que cette réforme renforcerait, ou en tout cas soulignerait, la proximité entre les magistrats du parquet et ceux du siège, entre les procureurs et les juges. Ce qui confirmerait la vision constitutionnelle, qui est la nôtre, d'un corps unique, alors que certaines voix s'élèvent à présent en faveur de la séparation en deux corps distincts. Mais il me semble que l'appartenance du parquet à un corps unique de magistrats est une garantie, notamment dans la relation avec la police. Et c'est ce que confirme le constat que dans les pays de common law, la séparation est beaucoup plus forte, la police est très largement autonome. Mieux vaut donc maintenir un corps unique et renforcer le contrôle du parquet sur la police. Au moment où, devant les juridictions administratives, on vient de changer l'appellation de commissaire du gouvernement en celle de rapporteur public, c'est un décret de janvier dernier, il pourrait sembler paradoxal de transformer celle de procureur en commissaire du gouvernement si on prend ce terme au sens littéral du terme. Maintenant, seconde condition, ce que j'ai appelé la stature du juge. Si l'on supprime le juge d'instruction pour créer un juge de l'enquête et des libertés qui serait supposé contrôler l'enquête du parquet, il est indispensable que ce juge puisse jouer effectivement son rôle. Comme l'a écrit ma collègue Geneviève Giudicelli-Delage, qui a beaucoup analysé la question en droit comparé, il faut trouver la bonne distance. Car placé trop près, le juge est aveuglé, c'est peut-être ce qui arrive parfois au juge d'instruction. Mais trop loin, Il devient aveugle, et c'est peut-être ce qui est arrivé au juge des libertés et de la détention. En tout cas, les difficultés auxquelles il se heurte, ce juge des libertés, montrent déjà qu'il faudrait renforcer les moyens matériels, création de postes en nombre suffisant pour que chaque juge, n'ayant à suivre qu'un nombre limité d'affaires, puisse prendre ses décisions en connaissance de cause. Et puis des postes situés à un niveau assez haut pour que les juges puissent avoir autorité sur le procureur. Moyens matériels, mais aussi les moyens juridiques. Il faut que ce juge puisse intervenir non pas par intermittence, mais suivre le dossier tout au long de l'enquête pour trancher les différends entre parquet et défense. Éventuellement, contrôler le choix entre les deux régimes d'enquête qui seraient proposés, semble-t-il, par le comité léger. Enfin, en cas de dysfonctionnement grave, le juge devrait pouvoir demander à la juridiction d'appel le dessaisissement du parquet. Mais pour repérer ces dysfonctionnements graves, on a besoin des avocats. Les droits de la défense, troisième condition, sont donc essentiels. Ils sont essentiels à la sauvegarde de la présomption d'innocence, bien sûr, mais ils sont essentiels aussi à la bonne administration de la justice. C'est pourquoi ces droits devraient être renforcés et étendus à l'ensemble des procédures, qu'il s'agisse de demander des actes d'investigation, de soulever des nullités, de faire appel dans les mêmes conditions que le parquet ou d'intervenir à la clôture de l'enquête. Si on développe les droits de la défense, il y aura nécessairement à faire évoluer l'aide juridictionnelle pour ne pas voir s'accroître les inégalités entre justiciables. Et d'ailleurs, cette question est envisagée par le rapport de la commission présidée par Jean-Michel Darrois sur les professions du droit. Enfin, si le secret de l'instruction devait être réformé comme il semble que le comité léger l'ait envisagé, il conviendrait d'encadrer les conditions de publicité de manière à éviter toute dérive médiatique qui pousse à compromettre la présomption d'innocence ou le respect de la vie privée. Ce sont des propositions que nos confrères Jean Cluzel et André Damien avaient faites déjà en 1996 dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, dernière condition, les droits des victimes. Il me semble que contrairement au système qui a été mis en place depuis 2007, la victime devrait, surtout si le principe de l'opportunité des poursuites était maintenu, elle devrait pouvoir s'adresser directement au juge pour demander l'ouverture d'une enquête. Alors que dire pour conclure? Eh bien, qu'il s'agisse de l'instruction ou du jugement, il me semble que l'enjeu de la réforme pénale n'est pas seulement un enjeu technique, même si les questions sont extrêmement techniques. L'enjeu est aussi un enjeu politique. Car le souci légitime en lui-même de simplifier la procédure et d'accélérer le jugement ne doit pas se traduire par un déplacement des pouvoirs. Un déplacement qui se ferait au détriment des juges, dont l'indépendance est garantie par la Constitution, et au profit d'un parquet qui resterait placé sous les ordres du ministre de la Justice. Merci.
Vous venez d'entendre Mireille Delmas-Marty, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et professeure au Collège de France, qui a lu une communication intitulée « La phase préparatoire du procès pénal, pourquoi et comment réformer ?» C'était le lundi 25 mai 2009.